Nous savons que l'artificialisation des sols participe à l'érosion de la biodiversité et accroît le risque d'inondation. La perte de terres agricoles interroge sur la capacité des territoires à nourrir la population. Le législateur s'est penché sur cette problématique. Chloé, qu'est-ce que le zéro artificialisation nette ?
Aujourd'hui, la loi Climat et Résilience vise à réduire les consommations d'espace de 50% à l'horizon 2030, avant d'atteindre le zéro artificialisation nette en 2050, qui peut aussi être appelé objectif ZAN. L'artificialisation nette est définie comme le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols. Et cet objectif ZAN impose de n'artificialiser qu'en dernier recours et dans le cas où une renaturation est possible.
Pierre, c'est un sujet qui doit être complexe à traiter pour les plans et programmes ou les projets.
Oui, au stade de la planification, les objectifs de la loi Climat et Résilience doivent être déclinés dans le SRADET, puis dans les SCOT et enfin dans les PLU. Il faut continuer à répondre aux besoins des populations pour le logement, les services, les déplacements, mais en mobilisant autrement le foncier. La densification des pôles déjà urbanisés est un axe majeur de réflexion, mais également la mutualisation au niveau intercommunal. En Nouvelle-Aquitaine, le SRADET fixait déjà un objectif de réduction de 50% de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers à horizon 2030. L'atteinte du ZAN en 2050 constitue une marche supplémentaire. Le ZAN impose une renaturation en contrepartie de l'artificialisation de nouvelles surfaces. Cette question de la renaturation sera un enjeu majeur de la mise en application de la loi. Nous devons veiller à ce qu'elle ne soit pas comprise comme un droit à artificialiser.
Lorsque tu dis « nous », c'est la mission évaluation environnementale notamment. Florence, comment se positionne de façon opérationnelle la M2E sur le ZAN ?
Nous rendons un avis sur la prise en compte de l'environnement. Nous attendons des porteurs de projets qui justifient du choix de la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers au regard des impacts environnementaux. Nous sommes en particulier attentifs à la mise en œuvre de la séquence « éviter, réduire, voire compenser les impacts sur l'environnement ». L'inscription du ZAN dans la loi Climat donne une force supplémentaire aux arguments donnés par l'autorité environnementale. En ce sens, l'évaluation environnementale constitue un outil opérationnel disponible immédiatement pour la mise en œuvre de la loi Climat sur le thème du ZAN.
Concrètement, quelles interventions êtes-vous amené à faire pour les projets d'aménagement, par exemple ?
Nous pouvons intervenir dès la phase amont du projet, notamment pour les zones d'aménagement concertées portées par des collectivités territoriales. Nous précisons notamment au maître d'ouvrage que l'évitement des impacts sur l'environnement commence par l'étude de plusieurs alternatives crédibles de localisation du projet. Nous lui indiquons également que les effets cumulés sur la consommation d'espace sont un critère à prendre en compte dans la définition du projet de moindre impact. La mission évaluation environnementale rédige en particulier l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale, dite MRAE. Les recommandations de l'avis peuvent être mobilisées par le préfet de département et la DDT pour établir l'autorisation ou le refus du projet. Le commissaire enquêteur et le public peuvent également s'en saisir durant l'enquête publique.
Mais avant d'entrer dans la logique des projets, la planification devrait avoir déjà abordé la question, non ?
Oui. Lors de l'élaboration de leurs documents de planification, SCOT, PLUI, les collectivités doivent identifier les espaces qu'elles souhaitent protéger de l'artificialisation. À partir de cette démarche d'identification des sensibilités environnementales, les SCOT et les PLU doivent identifier les zones préférentielles pour l'implantation d'activités et de logements. La recherche de la mobilisation de zones déjà artificialisées et de moindre impact environnemental doit prévaloir. Le respect de cette démarche est analysé par la MRAE dans ses avis sur les documents.
Chloé, lors de ton stage à la M2E, tu as participé à une étude qui visait à décliner l'objectif zéro artificialisation nette dans les documents d'urbanisme. Quels enseignements en tires-tu ?
J'ai réalisé 5 fiches d'analyse de bonnes pratiques sur 5 documents d'urbanisme qui ont vocation à s'intégrer au sein d'un guide régional de mise en œuvre du ZAN. Elles valorisent la gestion économe de l'espace tout en gardant un regard critique sur l'ensemble du document. J'ai pu constater par exemple qu'un PLU bénéficiant d'un inventaire exhaustif des zones humides sur son territoire n'avait pas prévu de traduction réglementaire permettant de réellement protéger ces espaces. La démarche d'évitement n'avait donc pas été menée à son terme. Avec cette contribution au guide, l'objectif était ainsi d'insister sur l'importance des itérations qui doivent être faites entre l'analyse des enjeux et la construction des dispositions du document d'urbanisme, et ce, tout au long de son élaboration.